Bonjour et bienvenue dans les petits déj de contact. Je vous propose de découvrir le premier petit déj contact qu'on a enregistré le 30 avril et c'est le premier qui est diffusé par Radio Campus Montpellier. L'association Contact les organise tous les deux mois en moyenne et réunit une vingtaine de doctorants autour de un ou deux intervenants. Et cette fois-ci, c'était le postdoc qui était au menu. Alors nos deux intervenants, c'était Mathieu Epardo, qui est chercheur au CIRAD, et Franck Menchet, qui est maître de conférence en sciences du vivant à l'Université Montpellier 2. Alors les deux sont venus pour nous parler sans tabou de toutes les questions liées au postdoc, en nous faisant part de leur expérience à l'étranger, aux États-Unis en fait. Franck était en thèse dans le New Hampshire et Mathieu en postdoc à Boston. Ils ont ensuite répondu aux questions des doctorants et ont fait un tour d'horizon de toutes les questions liées au postdoc, la recherche de poste tout d'ours, les premiers contacts, la durée du postdoc et les thématiques, comment valoriser son postdoc au moment du recrutement, et aussi la possibilité de partir en couple aux États-Unis en particulier, et même des questions un peu taboues parfois, le piston, les réseaux, et alors surtout ils vous diront aussi dans quel esprit aborder la recherche de postdoc, puisqu'à l'étranger c'est vous qui êtes recherché, et c'est vous qui devez choisir votre laboratoire. Alors sans plus attendre, je vous propose de les écouter.
Je m'appelle Mathieu Epardo, chargé de recherche en fait INRA, j'appartiens à l'INRA, mais je travaille au CIRAD à Montpellier, donc c'est un centre de recherche en agronomie tropicale. Donc j'ai été recruté par l'INRA pour travailler dans une nouvelle UMR, donc vous savez tout ce que c'est. Donc c'est que maintenant il y a une tendance quand même à mixer un petit peu les instituts de recherche pour faire des unités mixtes, justement pour essayer de rapprocher des domaines de compétences différents. Et moi je travaille dans une unité qui est assez grande, donc qui regroupe des gens du CIRAD et de l'INRA, qui travaille sur tout ce qui est maladies tropicales qui touchent les animaux. Et il y a de tout dedans, c'est-à-dire il y a des épidémiologistes, il y a des entomologistes, moi je suis immunologiste, et il y a des virologistes aussi, des bactériologistes, donc c'est un domaine de compétences assez large. Et donc moi je suis immunologiste, donc pour les biologistes donc je pense que ça vous parle, pour les autres c'est en gros tout ce qui est système de défense de l'organisme. Donc le rêve de l'immunologie, c'est de fabriquer des super vaccins ou de sauver la planète du cancer ou du sida, etc. Quoi. Mon parcours rapide, donc, j'ai fait un postdoc aux États-Unis dans un labo d'immunologie. Je vous raconterai donc, ça un peu plus en détail, bien sûr. Et j'ai fait une thèse dans un labo INRA en région parisienne sur de l'immunologie aussi. C'est pas très original, mais vous allez voir, c'est quand même des domaines très différents que j'ai fait entre la thèse et le postdoc et ce que je fais à l'heure actuelle. Et avant ça, j'ai fait la fac dans ce qui s'appelait avant licence et maîtrise donc de biologie cellulaire, qui correspond à je sais plus quoi maintenant dans les trucs L3, je crois, et master ici. Et avant ça, entre les deux, j'ai fait l'école d'ingénieur agronome de Montpellier. Et si j'ai un petit peu de temps, je vous raconterai aussi quelques anecdotes sur le parcours, parce que ce qui est différent entre par exemple les États-Unis et la France, c'est qu'autant en France on cherche des gens qui ont fait un parcours en général très classique, on aime bien recruter des gens qui savaient déjà comme tout le monde à 14 ans ce qu'ils voulaient faire, et à 18 ans quand ils ont passé le bac, bien sûr ils savaient exactement ce qu'ils allaient faire en première année de fac ou etc. parce qu'ils savaient ce qu'ils voulaient faire, comme tout le monde bien sûr. Alors qu'aux États-Unis justement ils encouragent les gens qui ont eu des expériences différentes et il y a beaucoup plus de flexibilité dans les parcours. Et ce qui fait qu'en général, les gens sont plus intéressés à recruter des personnes qui ont vu plein de choses différentes, puisque finalement, c'est vachement facile de savoir à la limite ce qu'on ne veut pas faire, mais c'est beaucoup plus dur de savoir ce qu'on veut faire. Donc voilà pour ma présentation. Je vais laisser Franck se présenter, puisqu'il nous fait l'honneur d'être là. Et de si bon matin, c'est l'honneur. Hein, parce que... Viens, tu veux peut-être te mettre à côté de moi, ça sera peut-être plus simple.
Mais ça sert vraiment le micro, là.
Ouais, t'es obligé, ouais. T'inquiète pas, on n'a pas l'image.
On n'a pas l'image, d'accord. Bien, bonjour. Donc, je m'appelle Franck Menochet. Moi, je suis maître de conférence en immunologie depuis 2006-2007. Donc, c'est récent, mais bon. J'ai pas fait de postdoc aux États-Unis, à l'étranger. J'ai fait ma thèse à l'étranger. Donc, c'est pas vraiment une. Je suis docteur de l'Université de Tours. Mais pour des raisons X ou Y, je me suis retrouvé à travailler à Boston, enfin à côté de Boston. En fait, j'étais dans un labo français, et puis mon patron et le chef du labo se sont engueulés. Mon patron s'est tiré à Pasteur, mais il n'avait pas de labo pendant... on ne peut pas faire un labo du jour au lendemain. Donc il m'a dit, écoute, j'ai un copain aux États-Unis, tu vas faire 2 mois là-bas, et puis rentrer en France, finir ta thèse. Puis en fait, les 2 mois sont transformés en 3 ans. Donc j'ai eu un ordre de mission de 3 ans, uniquement pour travailler dans un labo américain. Alors moi je suis assez nostalgique hein, de cette période. Je vais quand même revenir un petit peu en arrière donc, pour me présenter au niveau de la formation. Donc je viens de Tours, comme je l'ai dit, et j'ai fait l'IUT à l'origine. Je voulais faire l'UT pour faire des études, hein, pour faire docteur. Donc j'ai demandé moi à l'UT si on peut continuer la fac. Bon, on est d'accord, on n'est pas d'accord. Hein. Il y en a qui ne sont pas trop d'accord pour ça. C'est une formation courte. Bon, pour moi, c'était pour éviter les 2 premières années que j'estimais pas très agréables à la fac. Ensuite, une licence maîtrise de biochimie. Et puis, ce qu'on appelait donc, un DEA, Master 2, en immuno à Poitiers. Et ensuite, donc, ma thèse. Et puis, après ça, je suis... donc moi, ce que j'ai fait 3 ans aux États-Unis. Et puis, pour trouver un postdoc, ça a été extrêmement facile. C'est-à-dire que j'ai fait 8 demandes et j'ai eu 8 réponses positives. Parce que je venais des États-Unis. Et donc, ça, c'était un truc assez extraordinaire. Pourtant, franchement, bon, c'est vrai qu'il y a plus d'argent. C'est vrai qu'on travaille différemment qu'en France. Mais bon, je dirais, on n'est pas meilleur, quoi. On n'est pas plus intelligent là-bas qu'en France, mais il y a plus de moyens. C'est-à-dire que j'ai très bien publié. Au bout d'un an et demi, j'avais déjà un papier. Et puis, on avait une politique, où on s'aidait beaucoup et donc on avait pas mal de co-auteurs. Donc voilà. Et ensuite, j'ai utilisé l'association Bernard Grégory, moi, pour mes postdocs. Donc pendant que je rédigeais ma thèse, tous les jours, je regardais un petit peu ce qui se passait. Et puis, j'ai fait des demandes à droite, à gauche. Alors, des demandes qui étaient déjà financées. C'est-à-dire que je demandais uniquement les gens qui avaient déjà un financement pour un postdoc. Il y a des gens qui demandent des fois de postdoc, puis finalement, il faut venir avec son propre pognon. Quoi. Et donc, j'ai choisi de prendre un labo sur l'université de Montpellier, vis-à-vis de mathématiques. Moi, je suis immunologiste, donc j'ai travaillé sur le modèle de la toxoplasmose. Et puis, j'étais un petit peu limite en biologie moléculaire, donc j'ai choisi un labo qui faisait de la biologie moléculaire. Et puis, donc, après mon postdoc, c'était un projet Human Frontier, avec un financement Human Frontier, donc pas mal d'argent. Et croyez-moi, lorsqu'on vient des États-Unis, on ne veut pas être dans un labo où on travaille avec des agrafes et des trombones. Hein. C'est-à-dire qu'il fallait absolument un peu de pognon pour travailler. Alors, le patron me disait, oui, on a vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent. Et même un projet Human Frontier, en comparaison des États-Unis, c'est rien du tout. Donc moi, je vais donner un exemple. Alors, c'est vraiment un exemple, c'est arbitraire. Hein. Mais quand j'étais en thèse, je dépensais... Alors, je ne sais pas s'il y a un rapport entre la qualité du travail et la production. Je dépensais environ 40 000 dollars par mois en matériel. Alors, l'immuno, c'est très cher. Hein. Hein. Ici, en France, je suis à moins de 700 euros pour travailler. Voilà. Donc, c'est sûr, ça va moins vite. Hein. Mais bon... Et donc je suis rentré, je fais mon postdoc Human Frontier pendant 2 ans, et puis moi j'étais intéressé par l'enseignement également, pour de multiples raisons. Alors je pense qu'on est en plein dans la thématique, c'est-à-dire que la recherche, il faut accepter l'échec. C'est-à-dire qu'on est voué à l'échec quasiment tous les jours. Et puis de temps en temps ça marche. C'est-à-dire que tous les 2 ans, éventuellement, on est gratifié d'un papier, on est super content, voilà. Par contre, l'enseignement, la gratification, c'est tous les jours. Et puis, au contraire, si jamais le cours ne se passe pas très bien, la sanction, elle est immédiate également. Quoi. Donc, le bordel en amphi, etc., etc. Donc, moi, j'ai décidé de faire un sacrifice, je dis bien un sacrifice, c'est-à-dire de faire demi à terre, c'est-à-dire de passer d'un salaire pitoyable un salaire convenable, un salaire pitoyable, et à travailler encore plus. Et puis, j'ai fait un an de demi à terre, et puis j'ai présenté maître de conf, et je l'ai eu. Donc, à 30 ans et demi, j'ai eu un poste. Bon. C'est bien, c'est pas bien. Moi, là-dedans, j'en ai 34. Je sais pas si je vais rester toute ma vie à l'université. C'est pas un truc, surtout que la nouvelle politique, etc., etc. J'aime beaucoup mon métier, seulement... Je trouve que c'est vraiment chouette ce qu'on fait. On est des électrons libres, on se lève le matin pour faire des trucs sympas. Maintenant, moi, j'ai décidé de partir en Australie pendant 3 ans. Voilà. Donc, parce que j'en ai marre. Quoi. Pour revenir, je garde mon poste, c'est pas un problème. Mais je pars 3 ans en Australie, donc je vais faire une demande pour partir 3 ans. Et puis, faire un peu de recherche pour un petit peu remettre un petit coup dans le moteur, quoi. Parce que la recherche, c'est quasiment, je dirais, c'est pas impossible en tant que maître de conf, mais c'est presque impossible, en tout cas d'être compétitif avec les gens qui font la recherche à 100%. Donc, par exemple, moi je voulais être professeur d'université, en étant maître de conf, c'est pas possible. Enfin, il y a des gens qui le font, mais à l'heure actuelle, c'est pas possible. C'est-à-dire qu'on a beaucoup de charges. Alors, ce qu'on dit habituellement, c'est qu'on est censé faire 50% de recherche, 50% d'enseignement. Moi, je pense qu'on fait 50% de recherche, 50% d'enseignement, 50% d'administration, et puis 50% brasser du vent. Donc, voilà. Pour être professeur, mieux vaut être chercheur et donner quelques cours plutôt qu'être maître de conférence. Maintenant, c'est un choix, hein, uniquement. Donc, moi, j'ai deux choix qui s'offrent à moi, même trois. Trois choix que je vais utiliser. Soit j'essaie de passer CNRS, parce que j'ai eu aussi le concours CNRS, et j'ai fait le choix de faire maître de conférence. Je passe CNRS, mais là, ça fait comme 3 ans que je suis maître de conf, donc au niveau des papiers, bah, ça a légèrement diminué. Donc, soit passer rester maître de conf et puis décider de rester comme ça toute ma vie, ou soit carrément arrêter et partir à l'étranger. Donc moi, j'ai les trois options, je les envisage. Bon, voilà. Quoi dire de plus ? Alors, aux États-Unis, comment ça se passe ? Bien sûr, c'est cas par cas. Il y a des gens à qui ça se passe très mal. Moi, ça s'est passé très, très bien. Parce que le système américain, pour moi, est assez intéressant au niveau de la recherche. Le reste, si je suis revenu, c'est pas pour rien. Donc, au niveau de la recherche, je trouve qu'un thésar, par exemple, a sa parole à dire, a son mot à dire, et sa parole vaut autant qu'un directeur de recherche. Si c'est malin, si c'est argumenté. Alors qu'ici, on a un système français un peu hiérarchique, et on va tout de suite vous voir le professeur, et quand c'est lui qui parle, c'est lui qui a raison, de toute manière. En général, alors bien sûr, c'est une caricature un petit peu. Mais c'est comme ça que ça se passe. Là-bas, on est un petit peu tous... ils arrivent à nous... Alors bien sûr, en France, ça peut arriver aussi sûrement. À nous regarder dans les yeux et à nous parler d'égal à égal. Après... c'est sûr, les financements, c'est pas la même chose. Alors depuis la guerre en Irak, c'est plus vraiment le cas. C'est-à-dire qu'apparemment, c'est plus un paradis depuis la guerre en Irak. Il y a beaucoup d'argent qui ont été pris de la recherche pour être injecté dans des TGI. Néanmoins, ça reste encore pas mal. Et surtout, nous, on avait de la chance, entre guillemets, on travaillait sur un parasite pathogène. Donc, après le 11 septembre, on a eu beaucoup d'argent parce que c'était potentiellement une arme biologique, potentielle. Voilà. Donc voilà. Alors, beaucoup d'entreprises privées également qui travaillent avec nous. Alors moi, par exemple, qui ne suis pas vraiment privé, j'aime pas trop avoir des contraintes de recherche. Finalement, je me souviens avoir travaillé sur l'interféron bêta, la molécule qu'on utilise pour traiter la sclérose en plaques à l'heure actuelle. Et puis un jour, je vois une dame qui arrive et qui me dit « Alors, les résultats ?» Je lui dis « Mais qu'est-ce que ça peut vous faire ?» Et en fait, c'était une dame qui travaillait chez Bayer, et Bayer me payait depuis 3 ans. Et donc, quand j'ai su ça, j'ai dit « Bon, finalement, j'ai dû lui expliquer un peu ce que je faisais. » Mais bon, tout ça pour dire que là-bas, même les boîtes privées, à aucun moment m'ont demandé des comptes et des résultats. C'est-à-dire qu'ils ont essayé de me mettre dans une situation de travail la meilleure possible. Alors ils m'ont dit, voilà, est-ce qu'il y a des gens qui t'intéressent ? Tu veux qu'on organise des rendez-vous ? Donc des meetings. Les conférences étaient payées par eux, même des repas au restaurant pour discuter de science. Et donc je suis rentré en France et là j'ai voulu travailler un peu avec Bayer encore, parce que c'était vraiment des gens bien, quoi. Et on m'a mis en contact avec une dame qui vend Betaferon, qui est ce médicament. Et elle commence à discuter avec elle et elle me dit blablabla, ok. Et moi je lui raconte mes résultats. Elle me dit, écoute, je t'arrête tout de suite. Moi ce qui m'intéresse, c'est est-ce que tes résultats vont permettre de justifier que Betaferon est meilleur que Rebif, qui est le même médicament chez les concurrents. Donc là encore, c'est une façon de penser qui est assez particulière en France ou alors dans ce cas de figure par rapport aux États-Unis. Donc voilà, moi où j'en suis. J'ai décidé que j'allais rester en France et que j'allais de temps en temps aller faire un petit tour à l'étranger pour remettre un petit coup, comme j'ai dit, dans les moteurs et faire un peu de recherche. Maintenant, c'est sûr que les États-Unis m'ont énormément aidé déjà à avoir le poste, c'est-à-dire que lorsque j'ai passé le concours de maître de conférence, il y avait un type qui venait de Toulouse, qui était un Prague, qui avait écrit un bouquin d'immuno et qui vraiment avait fait un très très bon travail. Mais la chose, c'est qu'il n'avait jamais quitté Toulouse. Donc moi, en étant aux États-Unis, en étant parti plusieurs fois, j'ai fait des stages quasiment dans différents labos à chaque fois, parce que voilà, il faut être curieux un peu, hein, voir ce qui se passe ailleurs. Ça a été ça qui m'a permis d'avoir mon poste. Alors, autre chose, c'est que moi, je ne savais pas conjuguer le verbe être au présent en anglais. Et puis maintenant, je donne des cours d'anglais scientifique à l'université, quoi. Donc c'est un plus, c'est une richesse de partir. Et quitte à partir, cassez-vous loin. C'est pas à peine d'aller en Suisse. Enfin, je sais bien la Suisse, quoi. Mais aller apprendre une autre langue, quoi, ça sert à quelque chose.
Et puis que ce soit Montpellier ou Boston, pour le surf, l'Australie, c'est mieux.
Ouais, l'Australie, c'est mieux. Ouais. Ou la plongée sous-marine aussi. Ouais. Ouais. Donc on s'est mis à la Harley tous les deux aussi. On est partis.
J'avais commencé avant. Mais ah pas ouais, l'Harley.
Pas l'Harley.
Je vais faire un peu comme Franck, je vais vous dire un peu le parcours. Donc moi, j'ai fait mon postdoc donc à Boston même, et donc en immunologie aussi. Donc c'était dans un labo qui était assez jeune, il avait un an d'existence seulement quand j'ai démarré. Donc j'ai appris une fois sur place que ça dépendait de Harvard Medical School, blablabla. Donc effectivement, c'était aussi un labo très riche. Donc, et ce qui était sympa, donc ça c'est un élément aussi, on en discutera dans le choix, je pense, du postdoc, c'est que, bon, ça c'est mon choix personnel, c'était un labo finalement très petit, avec juste donc une responsable de labo, deux postdocs et une technicienne. Et du coup, il n'avait qu'un an d'existence, donc c'était vraiment à échelle humaine en fait. C'était pas une usine à postdoc avec 12 postdocs, dont sur les 12, il y en a à chaque fois au moins deux qui travaillent sur le même sujet et qui sont en compétition. Donc il faut avoir aussi une notion de ce genre de choses, quoi. Donc moi, j'ai eu des conditions assez privilégiées, dans le sens où moi, ma thèse, je l'ai fait en France. Mais j'ai passé un concours pour avoir ma bourse de thèse, en fait. C'est un concours spécifique à l'INRA. Ça existe encore, ça s'appelle les postes d'ASC, attachés scientifiques contractuels. Bref, c'est à peu près l'équivalent d'un concours de chargé de recherche. Mais ça permet d'avoir une thèse financée pendant 3 ans, avec donc un financement meilleur que la bourse de thèse classique. Et avec ouverture après ces 3 ans d'un poste à l'INRA sur le profil du projet de recherche. En gros, on permet à un labo non pas d'avoir un poste de chercheur d'ouvert, mais d'accueillir quelqu'un en thèse. Et à l'issue de ça, le laboratoire aura une création de poste de chercheur dans son labo correspondant au même profil de recherche. Bon, je vous le dis tout de suite, j'ai pas eu le poste lié ensuite, qui a été ouvert ensuite par rapport à ça. Et finalement, à l'heure actuelle, j'en suis très heureux. Simplement, ça m'a permis d'avoir mes 3 ans de thèse de payer et un renouvellement de 3 ans de financement, donc 6 ans en tout, mais sous condition de passer sa thèse au bout de 3 ans. Et les 3 ans supplémentaires peuvent servir à aller faire un postdoc n'importe où. Donc effectivement, je suis parti aux États-Unis en étant déjà financé par la France. Pas hauteur suffisante pour le coût de la vie là-bas, donc il y a eu un complément du labo américain. Mais sachant qu'à la base, maintenant je me rends compte a posteriori, c'est que j'aurais pas eu besoin de ce financement pour être pris dans le labo où j'étais en fait. Simplement, c'est vrai que ça m'a donné un peu plus d'assurance et un peu plus de culot pour aller réclamer les postdocs. Finalement, c'est le petit coup de pouce qui m'a aidé par rapport à ça, quoi. Donc, là, comme dit Franck, moi aussi j'ai une nostalgie des États-Unis. Mais je pense aussi qu'il y a quelque chose d'important, c'est que la période du postdoc, c'est la pour donc on va parler de recherche, je vais pas parler de la partie enseignement, mais simplement dans la partie recherche, c'est la période idéale. Pourquoi ? Parce que quand on est en thèse, on a encore beaucoup de choses à apprendre, on est très, je dirais, demandeur vis-à-vis de son responsable de thèse, on n'a pas un degré de liberté énorme. Bon, parfois on en a un certain quand même, mais on n'a pas l'assurance suffisante pour en profiter, je dirais, la reconnaissance suffisante. Quand on arrive en postdoc, on est un chercheur à part entière et on n'a pas toutes les responsabilités administratives, en particulier la recherche de financement, même si c'est bien d'y participer, ça peut être vraiment un plus pour plus tard. Donc c'est finalement la meilleure période pour faire de la recherche. Parce qu'on est peinard, on peut consacrer 100% de son temps à la recherche. On peut avoir des étudiants à encadrer qui peuvent nous aider donc à avancer plus vite. Et c'est aussi un plaisir de transmettre les connaissances, ce genre de choses. C'est la période idéale. Donc, je dirais, il y a de toute façon cet élément qui fait que si un postdoc se passe bien, il y aura toujours une certaine nostalgie du postdoc. Okay ? Maintenant, bon, le fait de parler des États-Unis, bon, bah, ça, c'est le goût de chacun. C'est quelque chose de particulier. Mais c'est vrai qu'il y a... je pense que bon, la caricature d'un labo un peu plus riche, c'est certain, bon, même s'il y a des labos en France et en Europe qui marchent très bien. Et j'aurais tendance à nuancer ce que dit Franck, dans le sens où c'est vrai qu'avoir de l'argent pour travailler, c'est bien, mais je connais des labos qui claquent beaucoup d'argent tous les jours et c'est pas pour autant que ça avance, quoi. Moi, je pense que c'est plus important d'avoir des idées que d'avoir de l'argent. Bon, après, il n'y a rien de plus frustrant que d'avoir une idée précise et de ne pas pouvoir faire la manip. Mais après, justement, l'intérêt, c'est d'avoir un réseau, de connaître des gens, d'avoir des collaborations. Et si la manip du siècle que vous avez envie de faire, vous ne pouvez pas la faire dans votre labo, vous allez toujours pouvoir trouver quelqu'un qui sera intéressé pour vous aider à la faire, quoi. OK. Et personnellement, moi, j'ai fait une thèse sur... je travaillais sur les moutons. Je ne travaillais pas sur la souris, je ne travaillais pas sur l'homme. Et donc, sur le mouton, il n'y a aucun outil disponible en biologie pour travailler en immunologie. Il n'y a pratiquement rien. Ce n'est pas Franck qui va me contredire parce qu'il connaît aussi le sujet. Et le fait est que pour avancer, il fallait avoir des idées plus que des moyens, quoi. Et donc, moi, l'avantage que j'ai eu, c'est quand j'ai terminé donc, ma thèse, j'ai mon labo qui m'a payé en fait, un billet pour les États-Unis pour aller visiter les labos qui m'intéressaient. Donc, c'est vrai que ça, financièrement, c'est un plus. Bon, maintenant, a posteriori, je me rends compte, bon, c'est pas dans les moyens de tout le monde, mais même si j'avais dû faire un emprunt pour pouvoir me payer mon billet d'avion pour aller visiter les labos, c'est vraiment un investissement à faire, quoi. Pour reparler, genre, un petit point sur les États-Unis, vous savez que aux États-Unis, bon, on s'endette jusqu'au cou pour faire des études, d'accord ? Une année d'études, c'est entre 20 000 et 30 000 dollars, quoi. Donc, je veux dire, de voir des gens en France qui ne font pas d'études simplement par manque de motivation, alors que les études sont gratuites, bon, évidemment, il y a des situations parfois familiales difficiles, ce genre de choses, mais franchement, ça met une claque de voir ça et de voir des gens qui font 15 petits boulots à la suite pour se payer leurs études. Et je pense que c'est un truc que n'importe quelle personne au lycée devrait, je sais pas, avoir un stage obligatoire d'une semaine aux États-Unis pour aller voir comment les jeunes se battent pour faire des études et comment à 40 ans, le chauffeur de taxi qu'on retrouve le matin servir au McDo, qui a toujours le sourire et qui vous dit « moi, je fais les études cours du soir et dans 5 ans, je serai avocat ben, », je ne sais pas s'il sera avocat dans 5 ans, je lui souhaite, mais en tout cas, respect, quoi. Donc ça, c'est juste un petit message. Donc il y a vraiment du bon à prendre des États-Unis. On n'a que la caricature et le mauvais qui arrive jusque chez nous, OK. Et bon, après, je dirais que le fait de pouvoir aller visiter les labos, c'est une bonne chose. Mais simplement, déjà, Franck parlait de l'association Bernard Grégory, c'est un super truc. C'est vrai que là, il y a pas mal d'annonces. Je dirais qu'il y a deux méthodes. Il y a d'abord éplucher toutes les offres disponibles qui correspondent à ce qui vous plaît. Parce que de toute façon, le plus vous allez envoyer de CV, le plus vous allez avoir d'entretiens, ce n'est pas le fait seulement d'augmenter ses chances, c'est qu'il faut, vous, pouvoir avoir le plus de contacts possible pour avoir des idées de ce qui se font. C'est comme choisir un appartement, quoi. OK, on peut avoir un coup de cœur sur un truc, mais si on peut en visiter 20, au moins on sera sûr d'avoir choisi le truc qui nous plaît. Okay. Et il y a aussi le fait de simplement, bon, bah, quand on est rendu surtout à la fin de sa thèse, la biblio, on la connaît par cœur, sa bibliothèse, elle nous sort par les yeux. OK. On connaît même, on finit même par être forcé de connaître le nom des gens qui ont travaillé dessus, parce qu'à force de citer les papiers, voilà. Et du coup, en général, il y a 2-3 labos qu'on adore, au moins du fait de leur publication. Maintenant, ça ne veut pas dire que les labos sont sympas ou sont des endroits où on a envie de faire son postdoc. Donc ça aussi, ça peut être typiquement l'endroit rêvé où envoyer des candidatures libres. S'il y a vraiment un truc, un labo qui vous plaît, donc ça, je dirais, donc il y a deux méthodes. Il ne faut pas hésiter, les candidatures libres sur des articles, bon. Sur un seul article qui va tomber dans votre thématique, c'est un peu délicat parce que justement, ça peut être la volonté d'un postdoc qui arrive dans un labo d'avoir envie de travailler sur un sujet. Ce n'est pas forcément quelque chose que le labo va continuer. Mais s'il y a un labo qui fait un peu référence, qui a sorti pas mal d'éléments sur votre domaine et que vous avez envie de continuer là-dessus, eh ben, envoyez une candidature. Donc en règle générale, moi, de ce que j'ai constaté, je ne sais pas si Franck confirme, mais les gens sont toujours curieux déjà. C'est-à-dire que même s'ils n'ont pas la possibilité de recruter quelqu'un, même s'ils n'ont pas le financement et tout, ils vont avoir envie d'entendre ce que vous faites. Okay. Donc déjà, ça peut être, je veux dire, le premier accès, le premier contact, il est facile. Quoi.
Moi, je suis complètement d'accord avec lui. Je dirais même que pour moi, vous devriez plutôt faire de la candidature libre. Parce qu'en France, autant en France, on n'a pas le choix. C'est le labo qui a du pognon pour vous payer. Alors qu'aux US, choisissez votre labo qui vous intéresse. Et puis, allez voir. Alors, moi, je n'ai pas eu de chance. Enfin, les gens ne m'ont pas payé des billets d'avion pour aller là-bas. Mais il y a des gens, beaucoup de labos qui le font. Mais, par contre, vous êtes en troisième année de thèse, je suppose, ou chose comme ça, ou deuxième. Utilisez la troisième année pour faire des congrès. Et pendant les congrès, prenez des rendez-vous avec les gens. C'est ça qui est intéressant. Et en général, ils vont vous accueillir, peut-être même vous payer un billet d'hôtel ou une nuit en hôtel ou un truc comme ça, quoi. Je sais pas. Mais choisissez d'abord la thématique, éventuellement même si vous voulez une région. Imaginez si la Californie vous intéresse, ouais. Il y a énormément de choix là-bas. Il y a autant de start-up à San Diego qu'en toute la France entière. Donc c'est pas. Et pourtant, il n'y a pas beaucoup d'habitants. Hein. Donc ça, c'est vrai. Et puis également, là où Mathieu a raison, c'est il ne faut pas choisir son labo à la légère. C'est-à-dire qu'au début, ils vont tous vous faire miroiter des trucs extraordinaires. Mais vous connaissez la thèse, hein, c'est pas un boulot à 35 heures. Donc le postdoc, c'est quasiment pire. Donc il faut être heureux dans son labo, ça c'est important. Et en effet, aux US, il y a des gens, ils ont tellement de moyens qu'ils ont tendance à mettre deux postdocs sur le même sujet, de manière à mettre les gens en compétition. À moins que vous aimiez ça, c'est pas une bonne ambiance, quoi. Moi, je me souviens, un mec qui m'a dit, je te préviens tout de suite, il y a deux noms sur les papiers, il n'y a que deux noms, et puis un des deux, c'est le mien. Et c'est comme ça. Et donc, il voulait que deux noms, parce que lui est toujours cité comme c'est le chef de labo. Donc, ce labo, moi, j'ai dit bye-bye, hein, et je suis allé voir un autre. Et ça, faites vachement attention. Donc, il faut discuter avec les gens, pas le chef de labo, avec les gens autour. Et puis, vous prenez une journée entière pour prendre un café avec les gens et puis dire, voilà, comment ça se passe d'un point de vue de l'ambiance, est-ce qu'on sort un peu, est-ce qu'on fait des trucs ensemble, est-ce que... Moi, par exemple, dans mon labo, alors, là encore, je ne suis peut-être pas objectif, mais... Des jours où il déclarait le labo fermé parce qu'il faisait tellement beau, il avait neigé la veille qu'il fallait faire du ski. Il y a des jours où on faisait des réunions de labo dans son bateau, dans son voilier, sur le lac Champlain. Quoi. Mais par contre, on rendait bien le travail quoi, par des heures et des heures et des heures de boulot. Mais à côté, c'était, voilà, c'était gratifié de choses comme ça qui sont vraiment sympathiques dans un boulot pareil.
Ouais, c'est exactement ça la caricature. C'est en France, on va passer la moitié de la journée de labo en pause café, ok. Alors qu'aux États-Unis, globalement, on va bosser vraiment à fond, mais par contre, on va avoir aucun scrupule. Et c'est même le chef de labo lui-même qui va organiser des trucs. Moi, j'ai eu droit au même genre de truc avec ma chef de labo aux États-Unis. Donc c'est vrai. Donc pour le choix, moi, je suis 100% d'accord avec Franck aussi. Le fait des candidatures libres vraiment en priorité, surtout pour les l'étranger où les labos sont demandeurs, ou si vraiment vous avez une idée, si vraiment ça accroche. Et même s'ils n'ont pas le financement, ils peuvent le trouver, quoi, globalement.
Ils ont besoin de postdocs, ils en cherchent tout le temps. Quoi. Je ne sais pas si vous connaissez, mais ici, y a, pour l'école doctorale en biologie, il y a, je ne sais pas combien d'étudiants, peut-être 70-80, et il y a 30 labos ou 20 labos qui vont prendre un postdoc, enfin, quelqu'un en thèse. Ou... Là-bas, c'est 20 étudiants pour 70 labos. Donc, 70 labos vont se battre pour les 20 étudiants. Donc,
Ce qui est sympa aussi, c'est que... Oui, par rapport à ça, un élément. C'est, si on est dans une zone justement très riche comme ça en labo, il y a aussi une pression qui va s'enlever. C'est qu'on démarre son postdoc, on va vous donner quelques trucs quoi, pour essayer de repérer un labo qui vous plaît, mais bon, c'est comme une voiture. Il n'y a qu'une fois qu'on est dedans qu'on se rend compte si ça se passe bien ou pas. Quoi. Il y a plein de, on ne peut pas tout évaluer à l'avance. Quoi. Donc si ça se passe vraiment mal, au bout d'un moment, il faut lâcher. Quoi. Et quand s'il y a certains coins, genre typiquement à Boston, vous sortez du labo, il y a trois labos qui vous accueillent les bras ouverts. Quoi. Ok, donc c'est un côté super rassurant quoi. Il faut pas hésiter si ça se passe mal, faut pas s'entêter quoi. Parce qu'après il y a une espèce d'orgueil aussi, un truc qui peut faire que je connais des gens qui ont fait 50 post-docs sans avoir de résultats et ça a été une souffrance quoi. C'est pas du tout l'idée quoi. Globalement, si vous faites de la recherche, bien sûr c'est par passion à la base quoi. Ok, donc c'est pas faut que ça reste quoi, sinon c'est pas la peine.
On va laisser nos intervenants deux petites minutes pour aller prendre un café. On va écouter une pause musicale et on revient pour la suite de ce petit déj contact.